le thème de ce rassemblement au cœur de la rencontre nous amène nécessairement à nous interroger sur qui nous voulons rencontrer, qui demande à être rencontré ou ne demande pas d'ailleurs, mais vers qui voulons-nous aller. Alors, les organisateurs m'ont demandé de parler de la rencontre et de la mission aujourd'hui par ce moyen des journaux paroissiaux. J'ai pas grande raison de le faire, sinon que je suis membre du Conseil de la Communication, qui est présidé par Mgr Giraud, aujourd'hui archevêque nommé de Sens, mais qui était à Soissons, et qui est plus spécialement, et vous le savez, puisqu'il envoie ses obélis par tweet tous les jours, qui est plus spécialement branché sur le numérique. Et pour moi, on m'a demandé de suivre toutes les questions qui concernent l'écrit, le livre, les éditeurs, les libraires, les bibliothèques. Donc c'est aussi pour moi un souci pastoral. Il faut dire aussi que avant d'être évêque en 2007 à Montauban, j'étais curé de paroisse et dans ma charge de curé pendant 6 ans dans une paroisse qui groupait à l'époque 40 000 habitants, j'ai eu à cœur, grâce à des laïcs convaincus et au soutien de Bayard Service, ce n'est pas de la publicité, c'est une réalité, de relancer un journal paroissial quelque peu moribond et qui n'intéressait pas grand monde, et d'étendre ce journal au doyenné tout entier, par petites étapes, et qui contenait à peu près 100 000 habitants, ce doyenné. Donc à force de travail et de rencontres, ce journal a fait sa route, mais aujourd'hui, sous prétexte de raisons économiques, il s'éteint. Je dis ça parce que souvent, c'est un argument très fort, l'argument économique. Alors nous verrons s'il est justifié ou pas. C'est vrai aussi dans les diocèses par rapport aux bulletins diocésains qu'on appelle de divers noms. Et souvent on dit mais c'est trop cher. Est-ce qu'il ne faudrait pas supprimer ce moyen de diffusion, ce média? Donc arrivé en 2007 dans le diocèse de Montauban, je me suis efforcé justement de soutenir et de pousser le service de la communication pour que le bulletin diocésain et les journaux paroissiaux soient des outils d'une vraie communication, pas simplement des remontées des eaux vaseuses du bénitier. Je veux dire par là que si c'est pour faire tourner les nouvelles qui sont tombées dans le bénitier, ben, vous savez, il n'y a même plus de grenouilles aujourd'hui, donc c'est pas très intéressant. Alors en disant cela, je ne vais pas laisser de côté de nombreux médias, dont par exemple la radio, la télé, Internet et tout l'univers numérique. Je suis moi-même l'évêque accompagnateur de la radio pour 7 des diocèses de Midi-Pyrénées qui ont pour radio Radio Présence et qui forment la RDMP, l'association des radios Midi-Pyrénées, donc des radios qui tournent autour de Radio Présence, soit qu'il y ait un lieu d'émission comme dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, bien sûr tout le monde connaît Lourdes, c'est de là qui retransmet le chapelet l'après-midi, Toulouse bien sûr, Cahors, mais d'autres diocèses comme le mien qui n'émettent pas mais qui reçoivent. Donc je suis de très près cet organe de diffusion et j'y crois beaucoup. Mais ceci, l'un n'empêche pas l'autre, et nous avons à toujours faire la part des choses, cesser de faire le ou, mais de mettre le « et ». Donc oui, au continent numérique, nous en sommes bien conscients, nous vivons à cette heure, et il nous l'a été rappelé pour les jeunes générations en particulier. Mais cela, et c'est ma première conviction, cela n'empêche pas l'écrit, le papier, n'empêche pas le livre. Alors à voir ensuite comment l'un aide l'autre et comment on répond, et c'est pour ça que l'analyse de tout à l'heure était excellente, comment on répond aux besoins ou aux demandes ou au public qui est là, comment on va vers lui pour lui faire cette rencontre, puisque c'est le thème aujourd'hui. Nous sommes ici pour aborder les joies et les peines, rappelons Gaudium et Spes, des journaux paroissiaux au cœur de la rencontre. Alors, un premier point, mais le père René Aucourt l'a déjà dit, je voulais préciser, premier point, la presse paroissiale, de quoi s'agit-il? J'ai cru comprendre, m'informant, qu'il y avait plus de 2000 titres en France qui relèvent de la presse paroissiale. Et donc, il s'agit des journaux qui émanent d'un ensemble de paroisses ou d'une seule. Je ne suis pas là pour discuter des regroupements paroissiaux et de la manière dont on fonctionne. Il s'agit de la presse. Donc, un ensemble de paroisses ou une seule qui sont des périodiques et qui sont distincts du feuillet dominical ou d'une feuille d'info. Parce que si on se lance dans les feuillets dominicaux, alors on n'a pas fini. Mais les feuillets dominicaux, ils sont à l'usage du bénitier, précisément. Je veux dire, ils sont à l'usage de ceux qui sont là et qui, au mieux, vont le diffuser aux voisins, aux voisines, mais ce n'est pas une presse qui va vers l'autre. Ce n'est pas une presse qui... C'est simplement une presse de fonctionnement. Donc, en général, il n'y a d'ailleurs pas grand-chose. C'est peut-être un petit mot du curé. Donc, la réalisation d'un tel produit, le journal paroissial, suppose des acteurs, une équipe, une charte, une ligne éditoriale. Alors, ne vous alarmez pas si vous en êtes encore loin. C'est peut-être que vous allez me dire, mais oh là là, tout ça, comme tout à l'heure, certains ont dit, mais comment pouvons-nous rejoindre tout le public que Mme Spaventa a défini? Attendez, ça vous donne des idées pour avancer, c'est tout. Il est rédigé et mis en œuvre par des bénévoles, bien sûr en lien avec le pasteur de la paroisse. Je veux dire, le curé et l'équipe pastorale. Mais en lien, c'est très vague. On peut discuter longtemps sur ce lien. Et il est habituellement, ou souvent, ou très souvent gratuit, et distribué largement, mais il peut l'être aussi par abonnement. Je ne prends pas parti là-dessus, ça fait partie des choses qui doivent être discutées localement. Alors, qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce qui justifie une presse paroissiale? Au moment où on a toutes les informations qu'on veut, on a Internet, on clique et on va savoir ceci ou cela, on reçoit des tweets où on nous dit ce que Madame la ministre de la Justice a pensé de ceci ou de cela, bref, on a toute l'information voulue. Alors, pourquoi maintenir, développer, faire grandir, et finalement, pourquoi croire que la presse paroissiale est nécessaire en 2015? Son développement est peut-être modeste, mais le signe qu'elle est toujours là et qu'elle reprend vie dans certains endroits est déjà un très bon signe. Qu'elle trouve sa place dans les foyers, qu'elle s'inscrit dans la mission de l'église locale, alors pour moi, un double titre. Le premier titre, c'est qu'elle donne à connaître le monde présent et vivant dans un espace donné. C'est-à-dire qu'il y a la notion d'espace, la notion de temps, et le donner à connaître. Tout à l'heure, Dominique Auduc a dit que c'est un adage célèbre, pour apprendre l'anglais à connaître John, il faut connaître John. Ben, pour parler à quelqu'un, il faut le connaître. Et il faut apprendre à le connaître, car on ne le connaît jamais assez. Donc, partager avec les autres, et partager avec les lecteurs une vision. Une vision, attention, c'est pas une vision de l'Esprit Saint ou de la Vierge Marie, c'est pas non plus de l'illuminisme, c'est pas non plus une espèce d'idée qu'on aurait et qu'on voudrait faire partager aux autres. Une vision, c'est un regard, c'est un horizon vers lequel on va pour non pas donner des réponses fermées, mais ouvrir à ceux qui attendent quelque chose, ouvrir la perspective. Et tout à l'heure, il était question de gens qui aimaient réfléchir et puis choisir. Eh bien, c'est ce qu'il faut donner, il faut donner le goût de cela. Un jour, dans ma vie de prêtre, j'étais aumônier d'hôpital à ce moment-là, et enfin, je fais bref en disant aumônier d'hôpital, et j'entre dans une chambre, d'octobre, hein, et j'entends une voix féminine qui dit, pendant que je referme la porte, « Ah ben il manquait plus que ça, voilà le curé qui vient vendre sa camelote. » Bon, c'était quand même un moyen simple de mettre fin à tout dialogue. Alors, je me suis mis en face de la personne, je lui ai dit « Madame, je suis désolé de vous importuner, mais sachez quand même que je ne vends rien, tout est gratuit. » Et que deuxièmement, ce que je pourrais proposer, ce n'est pas de la camelote, c'est du solide. Mais apparemment, ça ne vous intéresse pas, je vous demande pardon de vous avoir dérangé. J'ai remis la main sur la poignée, et au moment où j'allais rouvrir la porte, la voix a dit « Non, restez !» J'ai refermé la porte, un dialogue a commencé. Ce dialogue mènera cette personne à la sainteté, même si je ne suis pas l'Église tout entière pour le proclamer. Parce qu'elle est morte 2 ans et demi après, elle qui était, comme elle, je pourrais le définir à des gens qui ont cette culture, qui était une sorte de samaritaine des temps modernes, elle est morte dans, en ayant reçu le Seigneur dans l'Eucharistie, dans le sacrement du pardon. Et les dernières heures où je l'ai vue, elle mourait le lendemain, nous avons bu le champagne ensemble et elle m'a donné rendez-vous au ciel. Donc voilà, ça c'est pour dire la conclusion heureuse. Mais il n'empêche que, je veux dire par là, que ce que je donnais à cette personne, ce n'était pas la solution à ses problèmes. Ce n'était même pas de savoir ce qu'elle avait vécu. Quand je lui ai dit, ce n'est pas de la camelote, c'est du solide. Et je ne le vends pas, je le donne, ou je l'offre. Je l'offre à qui on veut. Ça, c'est une conviction pour le dialogue, pour la presse paroissiale, mais comme pour d'autres choses. Mais nous devons avoir cette conviction. Et la deuxième, c'est que nous annonçons une bonne nouvelle. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait que tout le journal paroissial soit un journal qui ne donne que les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous ouvrons à une possible évangélisation. Nous ouvrons à une possible évangélisation. Ce n'est pas un catéchisme, ce n'est pas non plus un traité de théologie. Même si, tout à l'heure, on a dit que certains avaient besoin d'un éclairage qui permet de voir, d'orienter la vision, c'est ça, orienter vers, conduire vers. On va faire lire les pères de l'Église, même si c'est bien reçu aujourd'hui, dans nos journaux paroissiaux. Mais on peut dire... Regardons ce commentaire de saint Augustin sur tel passage d'évangile. On met d'un côté le passage de l'évangile et de l'autre ce que saint Augustin en dit. Bien sûr, ce seront 15 lignes simples, compréhensibles, etc. Et puis, ça peut être « et aujourd'hui, ce que on peut-on dire ?» Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas simplement donner à connaître le monde présent et vivant dans un espace déterminé. La paroisse, le doyenné, ce que vous voulez, la zone, etc. C'est vraiment donner une vision. D'où la cohérence. S'il n'y a pas de cohérence, ça me rappelle cette directrice d'école catholique à qui j'avais un peu dit qu'il fallait des signes un peu clairs pour les enfants, quand même, une école catholique. Et pour Noël, elle me dit, j'ai fait la crèche, venez la voir. Alors, je vais voir la crèche, mais savez-vous ce qu'il y avait au-dessus? Il y avait un magnifique Père Noël chargé de cadeaux. C'était touchant. Mais enfin, les deux étaient un peu incohérents. D'où, si vous voulez, pour moi, les caractéristiques de cette presse paroissiale. Donc, c'est dans le premier point, la presse paroissiale, de quoi s'agit-il? Ces caractéristiques, je résume, et je à vous de voir après ce qui peut être fait, une presse de proximité. Elle dialogue avec la société proche selon l'expression vivante de cette société, c'est-à-dire du lieu où nous nous trouvons, des gens qui sont à la ville, à la campagne, dans des questions... écoutez, si j'ai fait une presse paroissiale en ce moment à Sivens, vous savez, c'est dans le Tarn, c'est près de chez moi, mais c'est pas mon département. Il y a eu l'histoire du barrage, qui se fait pas, il y a eu un mort, etc. Il est nécessaire qu'il y a des... c'est très tendu. Il y a des paysans qui sont... très 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 violent parce qu'ils ont besoin de cet apport d'eau. Donc, si on fait un article là-dessus, il va falloir voir ce que pense la société proche. Cette presse paroissiale se préoccupe d'abord de l'humain, des personnes humaines. Et elle veut rejoindre la plupart des lecteurs en n'oubliant pas, c'est son point d'appui, que le plus humain des humains, c'est le Christ. Pas oublier qu'il est l'homme par excellence. Ensuite, et dans le même temps, tout ça c'est dans le même temps, chacun des membres de l'équipe entre en dialogue avec les autres. Il y a là une première rencontre. Si chacun arrive avec sa feuille, moi j'ai fait ça, et je tiens à ce que ça aille la même fois. Bon, ben c'est fini, il n'y a plus d'équipe. Qu'est-ce que vous voulez? On fait une juxtaposition d'articles, mais c'est plus un journal, des feuilles, on met feuilles, etc., puis on en met 10, 20, 30, Bayard Service se débrouillera, ou un autre organisme, voilà. Donc chacun des membres de l'équipe entre en dialogue avec les autres, première rencontre, et l'équipe en dialogue avec le terrain. Avec le terrain, il faut connaître John, il faut connaître le terrain. De ce fait, l'équipe du journal rend proche des autres les événements, les nouvelles, pour leur faire partager la vie, en exprimant en message compréhensible ce qui marque cette vie. Il faut se dire soi-même le message pour savoir s'il est repris par les autres. Vous savez, c'est notre travers, nous les curés. On parle, mais on oublie de savoir si les autres ont compris. N'est-ce pas? Alors, vous sortez d'une homélie, vous dites, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il a bien parlé. Oh, il a bien parlé. Mais vous savez, c'est l'union hypostatique. Monsieur l'abbé avait parlé de l'union hypostatique et la vieille dame est allée lui dire, vous savez, vous avez bien fait, parce que des unions comme ça, immorales, il y en a plein dans la paroisse. Voilà. Tout le monde connaît cette histoire, mais personne ne la met à profit. Voilà. Alors on appelle ça la langue de bois, la langue de buis, ce que vous voulez. Dans certains cas, on ne peut pas faire autrement. Si, au sortir d'une rencontre d'évêques, un journaliste vous dit « Alors il paraît que vous êtes disputé avec Monseigneur Untel », vous n'allez pas dire « Oui, parce que c'est un imbécile » ou « Parce que je suis le dernier des salauds ». Ça, vous ne pouvez pas le dire. Alors vous allez utiliser un langage diplomatique. Vous savez, en langage diplomatique, la rencontre entre le président de tel endroit et le président de tel autre s'est passée au mieux des deux parties. Ils ont établi un dialogue constructif. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait, que c'est complètement nul et qu'on n'a rien fait avancer. Alors, s'il vous plaît, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Il faut absolument éviter dans un journal paroissial ou ailleurs d'ailleurs. Quand vous lisez certains journaux, vous dites mais pourquoi il a écrit ça? Mais à quoi ça sert? Vous savez, j'évoquais mon expérience, quand je voyais arriver 10 articles sur la communion solennelle ou la profession de foi dans chaque village de mes paroisses, j'arrêtais, je dis mais attendez, on s'en moque. Qu'est-ce qui intéresse les gens? Qu'est-ce qui intéresse les gens? Eh bien, c'est que la grand-mère voit la photo de sa petite fille et que la petite fille montre la photo à toute la famille. Donc le journal va faire le tour, c'est la photo qui intéresse. Et donc on va mettre les photos. Alors on va faire une page photo de première communion ou de communion solennelle, ce que vous voulez, et ça suffira, ce sera vite fait. D'où l'intérêt de Photoshop, etc. aussi. Alors attention, on travaille toujours en complémentarité, mais ça nous évite des articles idiots pour dire que monsieur le curé a dit la messe. On se demanderait bien qui d'autre aurait pu dire la messe. Mais qu'est-ce que... Non mais... Bon, voilà. Alors, je continue. L'équipe rend proche pour tous les autres les événements, les nouvelles, pour faire partager la vie et exprimer en message compréhensible ce qui marque cette vie. Quel est, pour la première communion ou la communion, etc., ce que les gens attendent, c'est d'une photo. Dans l'ordre, des photos, ils n'attendent pas des articles. Alors, le journal informe, mais aussi communique. Ah, il informe et il communique. Il a quelque chose à dire, il propose du sens à ses lecteurs. Il n'est pas la revue des événements du mois ou du trimestre, etc., comme certains journaux locaux vous expliquent que le commissariat a reçu 22 plaintes dans la semaine pour vol, et etc. On s'en moque. On n'en a pas besoin dans un journal paroissial. Donc voilà. Que monsieur le curé ait dit la messe, ce n'est pas une nouvelle. Et que le Secours catholique se soit occupé des autres, dans la solidarité, ce n'est pas une nouvelle. Maintenant, s'il a reçu des Albanais et qu'on a cherché des logements pour eux et qu'on a fait appel à des familles, c'est peut-être une nouvelle. Donc c'est ce qui informe mais communique et propose du sens à ses lecteurs. Et donc, on rejoint le dernier point qui a été dit tout à l'heure, la presse locale chrétienne devient alors un outil d'évangélisation. Mais attention, un outil d'évangélisation par le sens qui est proposé à partir d'événements. Alors, il peut y avoir de grands événements ou de petits événements. Au fond, pour la presse, il n'y a pas... Didier de Coin, qui est un auteur chrétien, vient de sortir un livre sur le fait divers. Un fait divers à travers les âges. C'est très intéressant. Il fait une analyse de ce qu'est un fait divers. Après tout, on peut prendre un fait divers. Mais tout dépend pourquoi on le prend et comment on veut le traiter. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire passer à travers ça? Si on pense que ça intéresse nos lecteurs, si on pense que ça intéresse le terrain, on va le prendre. Et c'est là que l'équipe de rédaction a un travail à faire. Deuxième point, donc j'ai essayé de définir quelques points de la presse paroissiale. Vivre la rencontre, c'est pour moi une communication vivante qui donne le goût de la vie. Vivre la rencontre, une communication vivante qui donne le goût de la vie. Je m'arrête au verbe vivre, car il me paraît très juste pour préciser que le journal est un outil vivant, qu'il me fait vivre. L'objectif, la vision dont je parlais tout à l'heure, ce que je poursuis, c'est de donner le goût de la vie aux gens. Pourquoi ? Parce que si je suis chrétien, j'aime la vie. Si je fais un journal pour dire « Oh, ça va pas, c'est désespérant, il n'y a plus personne à la messe. » Et puis, non mais attendez, arrêtez, allez faire autre chose. Et si on arrive à l'équipe du journal, « J'ai rien à dire. Oh, il faut se crever pour trouver quelque chose. Ça fait 30 ans que ça dure. » Eh bien, c'est dit, c'est 20 ans de trop, madame. Vivant, alors attendez, vivant et vivre, parce que hormis les avis de décès, mais un journal paroissial n'en a rien à faire, hormis les avis de décès, le journal est une rencontre de vivant à vivant. Si c'est une rencontre de vivant à vivant, ça doit répondre à la question, qu'est-ce qui me fait vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui me permet de vivre aujourd'hui? Et subsidiairement, qu'est-ce qui me permet de vivre en chrétien aujourd'hui dans le monde où je suis? Monde dont on nous a dit que les gens étaient en désarroi. Monde dont on nous a dit que les gens n'avaient plus de solution toute faite, qui refusaient toutes les doxas, c'est-à-dire tous les enseignements qui leur tombent sur la tête. La pensée unique, si vous voulez. Qu'elles viennent à leurs yeux de l'Église, car je ne crois pas qu'il y ait dans l'Église une pensée unique. Si j'avais un capteur de pensée, j'en trouverais 200 différentes là. Mais il n'y a pas de pensée unique dans l'Église. Mais il y a ce qu'on croit être la pensée unique. Et dans la politique, n'en parlons pas. Et dans les systèmes économiques, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qui est vivant? Vivant parce que si l'Église est vivante, elle communique. Et si nous n'avons rien à dire, nous ne faisons pas de journal. Alors je pense, tout à l'heure, il y a un instant, je mimais les équipes désespérées. On se retrouve autour de la table, ah, c'est comme d'habitude. Ah, mais vous savez, il n'y a pas que les journaux paroissiaux qui en sont là. Il y a certains groupes de chrétiens qui disent, ah, on est trois de moins. On est le mouvement chrétien des retraités, il en est mort trois cet hiver. Ah, bon, très bien. Et les vivants, qu'est-ce qu'ils font là? Donc, si vous voulez... Le journal est un espace de dialogue. Or, le dialogue, c'est de vivant à vivant. On va à la rencontre des personnes qui font la communauté. La communauté, j'entends pas catholique, j'entends la communauté où l'on vit. Et on est, alors là, je me réfère au pape François, Evangelii Gaudium, mais tout ce qu'il dit, c'est le deuxième anniversaire de sa nomination, de son élection aujourd'hui, une église en sortie. Êtes-vous des gens en sortie ? Alors, je n'ai pas dit que vous alliez tous les soirs au cinéma ou au théâtre. Non, non, ce n'est pas cette sortie-là. C'est aller vers les autres. Il faudrait manier le micro et le journal, c'est-à-dire aller écouter ce qu'on peut dire dans certains endroits. Vous pouvez commencer un article en faisant un tour de micro dans la commune où vous êtes, etc., en disant, on aborde un sujet. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Par exemple, on parle de l'euthanasie. C'est puisqu'en ce moment, la loi Claeys-Leonetti est sur le tapis, était hier à l'Assemblée. Eh bien, interrogez les gens et puis partez de là. C'est des vivants qui vous ont répondu. Peu importe ce qu'ils vous ont répondu, vous le notez et puis ça part de là. Donc être une église en sortie, c'est-à-dire entrer en dialogue avec la culture, le monde, les lieux de vie. J'ai beaucoup souligné le patrimoine. Alors, c'est pas parce qu'ici nous sommes dans une cité patrimoniale importante, mais on a tous des richesses dans Dieu. Comment interroger les gens qui maintiennent en vie ce patrimoine, qui le font revivre, mais aussi les amoureux de bien des choses. Il y a des gens qui sont extraordinaires quand vous savez parler de ce qui leur convient, de ce qui leur plaît. Un jour, je ne le connaissais pas bien encore, j'étais à table avec un délégué pastoral, d'une équipe pastorale. Et, ben, vous savez, quand on est avec l'évêque, parfois, on n'est pas très à l'aise. Et alors, parfois, on l'est, très heureusement, mais enfin, bon. Et à un moment, ce monsieur qui est jeune, je ne sais pas ce qu'il a dit, et je lui dis, « Ah, mais j'aime aussi passionnément les oiseaux. » Je lui ai dit ça. Il m'a dit, « Ah bon, vous aimez les oiseaux ? Moi, je vais observer à tel endroit, etc. » Et l'autre jour, il m'a rencontré, il m'a dit, « Dimanche, je vais observer les oiseaux à tel endroit, est-ce que vous voulez venir avec moi ?» Non, mais je ne pouvais pas. Mais j'aurais fait un journal paroissial, je l'aurais attrapé, il y a très peu de gens qui savent que ce monsieur est passionné d'oiseaux. Eh bien, je l'aurais attrapé, je lui ai dit, « Vous allez nous faire un reportage sur les oiseaux qu'on trouve dans la région, etc. » Enfin, par exemple. Et vous voyez, c'est le dialogue qui amène à ça. Autrement dit, et je reprends ce que disait le bienheureux Paul VI, aujourd'hui, l'Église se fait conversation. Et cette conversation est un entretien. Dans l'entretien, on est en soin pour l'autre. On a du soin pour l'autre. Un entretien qui fait découvrir la vie. Bien sûr, la vie de l'Église, parce qu'il faut que les lecteurs du journal sentent quand même qu'ils sont un peu concernés par la vie de l'Église. Mais bien sûr, la vie de l'Église. Mais il faut aussi faire découvrir que l'Église est communication. Et que donc, on a des choses à dire, mais que ces communicants sont d'abord des témoins. Une communication est vivante quand celui qui parle ou qui écrit s'engage. Le même notre pape François dit pour son message pour la journée des communications passée, l'implication personnelle est la racine même de la fiabilité d'un communicateur. On veut des témoins. Et ça, les analyses que nous avons eues tout à l'heure le montrent, on veut des témoins. D'ailleurs, vous savez très bien qu'il est difficile d'être témoin. Quand on aborde en groupe de chrétiens un sujet, un partage d'évangile, une réflexion personnelle, il est très difficile de dire « je ». Hein ? C'est très difficile. Or, même en confession, il y a des gens qui n'arrivent pas à dire « je ». « Oh, ben on fait un peu les péchés de tout le monde. Attendez. On fait un peu les péchés de tout le monde. On a envie de dire, mais assume-toi, enfin. Vous imaginez, Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? Ben, on est un peu malade, comme tout le monde. On a un peu les rhumatismes, on a un peu. Non, mais. Enfin, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je vois, Seigneur. Je suis aveugle. Voilà, et Jésus le guérit. Et c'est pareil. Jésus, oui, je suis pécheur sur tel point. Je déteste ma belle-mère. Je voudrais la tuer. Voilà, ça c'est précis. Ce sont donc des témoins qui font le journal. Les témoins de la vie des gens. Les témoins de la présence de Dieu. Les témoins de la dynamique de la foi. Les lieux où germe la semence du royaume, de manière originale, inhabituelle, ou de manière cachée. Parce que nous sommes à une époque où la semence continue de germer, mais d'une manière inattendue. Récemment, j'ai reçu la visite d'une jeune fille, enfin, elle m'avait envoyé un mail auparavant, mais qui part comme bénévole volontaire en Angola pour s'occuper d'enfants en détresse, avec d'autres équipes. Ben, voilà un témoin d'aujourd'hui, 23 ans, qui nécessairement, il faut qu'on en dise quelque chose. Il faut qu'on soit le haut-parleur de ceci. Ce n'est rien, c'est tout petit. Elle m'a dit, ah ben vous voulez que... Alors je me suis permis, mais le directeur de la communication en fera ce qu'il voudra, de lui dire, faites un article, envoyez des photos, et le service de communication du diocèse, si vous le permettez, le prendra et le fera connaître. On va voir. Je sais pas. Après, ce n'est plus mon problème. J'ai passé acquis de droit, principe de subsidiarité. Donc, on a besoin de témoins. Et que disent ces témoins? Ces témoins disent le monde. Ils disent au cœur du monde ce qu'ils vivent. Ils sont vivants au cœur du monde. Tout à l'heure, une question était juste. Mais comment allons-nous rejoindre tous ces gens? On a 70 ans de moyenne d'âge, on en a associé. Mais peu importe, on est jeune à tout âge. Si on regarde le monde avec cette vision dont je parle, c'est-à-dire, on regarde le monde en disant, les semences de l'esprit sont là, le monde est en germination, bien sûr c'est catastrophique, il y a des ténèbres partout, mais au milieu de ça, qu'est-ce qui apparaît? Et c'est ce que nous avons à découvrir pour montrer une vie, une espérance, et il s'agit de dialoguer avec le lecteur pour l'amener à comprendre qu'un vivant lui parle, un vivant de l'amour des oiseaux, un vivant de la fabrication des petits paniers en osier dans lesquels on met ce qu'on veut, ça c'est pour le faire soi-même, etc., d'une recette de cuisine inédite, ou de la façon de faire de manière plus économique, le gigot grand-mère à cuisson lente. Donc, à partir de là, nous pouvons parler de rencontres. Nous pouvons parler de rencontres parce que nous avons pris la dimension, enfin nous avons pris la mesure d'aller vers l'autre et non pas de lui imposer ce que nous voulons, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse appuyer sur le menu, vous comprenez, ce qu'on a de bien dans nos moyens de communication aujourd'hui, c'est qu'on clique menu, puis après on choisit. Eh bien, un journal doit avoir un peu ce principe, c'est-à-dire il doit y avoir, et je pense, mais peut-être j'ai tort, qu'il y a une régularité où il y a la page divertissement, la page cuisine, la page découverte du patrimoine, et puis des pages de fond, il y a le fond commun diocésain, peut y avoir la page réflexion plus profonde, philosophique, théologique, etc. Alors, en quoi, deuxième point de cette communication vivante qui donne le goût de la vie, en quoi la presse paroissiale est-elle le lieu de rencontre? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que à travers elle se crée un espace de dialogue. L'erreur serait de croire qu'on ne dialogue que sur Internet ou que par tweet. On dialogue aussi par l'écrit. C'est paradoxal, mais pourquoi le dialogue? Parce qu'il fait place à l'autre, parce que je reconnais que l'autre aussi existe et que d'une certaine manière je peux l'écouter. Alors vous allez me dire, mais c'est un courrier des lecteurs ça? Pas du tout. S'il y a eu un événement, s'il y a eu des choses qui ont marqué les gens, et nous savons ce qui marque les gens si on les écoute, eh bien de là nous allons faire un article qui ouvre un horizon, qui donne une vision à partir de ce qui est marqué. Je pense que, si vous voulez, c'est... Bon, chaque quinzaine, j'écris dans le bulletin paroissial les 5000 caractères auxquels j'ai droit. C'est sévère chez moi, vous savez, l'évêque, il est tenu. Et donc, 5000 caractères sur un sujet souvent d'actualité. Bon, là, j'ai essayé d'ouvrir la réflexion à la question de la loi sur la fin de vie, pour en montrer les difficultés, les problèmes que ça posait. Je n'ai pas donné une réponse massue qui assomme. Ça ne veut pas dire que je ne la donnerai pas un jour, mais voilà, j'ai cherché une pédagogie. Bon, j'ai tort ou raison, mais enfin, c'est ça. Comment un dialogue peut-il se vivre entre les rédacteurs et les lecteurs? Quelle rencontre possible? Le pape François, toujours cette fois en 2013, disait que la communication dans l'Église, c'est une invitation à se donner soi-même aux autres. À se donner soi-même aux autres. Ce qui manque souvent, c'est notre engagement personnel. Alors, j'ai pas dit de dire « je » à tout instant. Moi, je, ça c'est insupportable. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Un jour, un évêque qui faisait une grande théorie, quelqu'un a dit « mais vous, qu'est-ce que vous pensez ?» Ah, ça c'est clair. Et des jeunes, je me suis beaucoup occupé de jeunes, ils disent « mais toi, pourquoi tu as la foi ? Mais toi, pourquoi tu vas à la messe ?» Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Première lettre de Pierre. C'était dit aux chrétiens des premiers siècles. Nous devrions toujours être prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous, parce qu'il y a le Christ, mais aussi de l'espérance de la vie, de l'espérance auprès des jeunes, etc. Donc il y a un chemin de rencontre qui est là. Mais c'est à travers la disponibilité à s'impliquer avec patience et respect dans les questions, les doutes, sur le chemin de la recherche et du sens de l'existence humaine, continue le pape François. Donc avec patience, avec respect, sur le chemin de la recherche. Le projet d'un journal paroissial est donc bien de réaliser la proximité, de rejoindre les uns et les autres, mais c'est une sortie de soi vers l'autre, et une sortie de soi, c'est moi qui le souligne, qui est exigeante, parce qu'aller vers l'autre, c'est d'abord un acte de la volonté. D'abord un acte de la volonté. Et puis, ça se prépare, ça se mûrit, et ça s'apprend. Non pas par des formations tellement. À propos de formation, il y a des gens qui font des formations toute leur vie. Et puis, ils n'arrivent à rien. Je vais dire, mais c'est vieux, et puis c'est... bon, c'est vieux et c'était ailleurs. Il y avait dans l'équipe des visiteurs d'hôpital dont je m'occupais pour la conduire vers ce ministère, ce service, une dame très scrupuleuse. Alors elle a fait les stages d'écoute A, B, stages d'écoute supérieure, elle avait étudié la méthode je sais pas quoi, et puis elle arrivait au bureau après ses visites, elle se mettait presque en larmes, en disant « ça n'a pas marché ». Alors, je lui dis « mais comment vous avez fait ?» Ou la responsable monnerie, il disait « comment vous avez fait ?» Quand j'ai vu ce qui se passait, je suis sorti, j'ai feuilleté mon petit carnet pour savoir si j'étais dans la phase de révolte ou de déni du malade. Alors, je vais vous expliquer, le docteur Elisabeth Kubler-Ross, ceux qui s'occupent d'accompagnement de malades sur palliatifs savent ça, dans les années 70, médecin américain, a fait toute une étude sur l'évolution du patient qui est atteint d'une maladie qui conduit à la mort, enfin une maladie très grave. Et alors il y a cette phase, bon, comme ça, mais qui n'arrive pas automatiquement, comme quelqu'un qui a une dépression, ça se déroule pas comme ça, ou quelqu'un qui découvre le Christ, c'est pas Saint Paul, ça se passe pas nécessairement comme Saint Paul, il ne devient pas aveugle, etc. Et donc cette pauvre femme cherchait à savoir dans quelle phase elle était, et elle ne s'y retrouvait pas. Alors elle revenait, elle dit, mais j'ai pas pu reprendre l'entretien. Et un jour quelqu'un m'avait dit, si seulement elle oubliait, elle cessait de s'habiller en noir et d'arriver en disant, oh que vous êtes malade, mon Dieu. Voilà. Vous voyez, il faut quand même avoir un minimum de bon sens et de compréhension d'altérité, de souci de l'autre. Voilà. Donc, si vous voulez, cette sortie de soi est exigeante parce qu'aller vers l'autre demande un acte de la volonté, une formation, et les routes pour aller vers les autres, dit toujours le pape François, sont celles du monde où les gens vivent, où l'on peut les rejoindre effectivement et affectivement. Effectivement et affectivement. Les routes où ils vivent. Vous comprenez qu'il y a aussi de la cohérence. Si vous parlez du danger de la pêche en bateau au pied des Alpes, je vois pas, de la pêche en mer au pied des Alpes, je ne vois pas très bien l'intérêt, la cohérence entre l'ensemble des photos, enfin les photos et l'article, les titres et l'article, etc. Enfin, il y a tout ça aussi à vérifier. Bon, déjà au point de départ, si vous voulez, j'ai apporté un engagement par la liberté de l'écriture, dans le respect de chacun, et avec un regard de paix et de fraternité sur l'autre, toujours. Donc, formation d'une équipe, pareil, regard de paix et de fraternité, lieu de la rencontre. Si votre équipe n'est pas le lieu de la rencontre, si vous vous tapez dessus, il faut refaire tout ça. C'est nécessaire. La nécessité de s'entendre, de travailler ensemble, le partage du projet avec l'obligation d'échanger avec les autres. La capacité aussi de partager simplement sa foi, de prier avec les autres, de donner son témoignage en vérité, déplace la rencontre sur un autre plan. La foi vécue et partagée est souvent une communication difficile entre nous chrétiens. Lorsque j'ai renouvelé mon conseil épiscopal l'année dernière, j'ai tenu à ce qu'on ait une journée de rencontre, même deux jours, dans un monastère, pour se mettre à l'abri de nos habitudes. Et cette journée de rencontre, à part la vie des moines et les offices, elle a été un échange en vérité sur notre relation au Christ. Prêtres, diacres et laïcs qui composent le conseil épiscopal et l'évêque, bien sûr, est à l'évidence. Et lorsque je suis dans des groupes où les gens expliquent leur chemin de foi, je donne le mien tout à fait naturellement. Voyez-vous, dans le dialogue écuménique, j'ai fait une expérience très belle avec des pasteurs d'église évangélique, parce que la première chose qu'on a dite pour se rencontrer, c'est parlons de notre rencontre avec le Christ. Parlons de notre... C'est pas moi qui l'ai dit. De notre rencontre avec le Christ. Alors ils se demandaient, ces pasteurs évangéliques, ce qu'allait faire l'évêque dans sa propre maison devant une telle situation, parler de sang... d'autant plus que certains étaient, c'est la manière de Saint Paul, hein. C'est Jésus m'a retourné, hein. Et puis avec des louanges au Seigneur pendant ce temps. Bon, ben j'ai pleinement partagé dans ce qui était ma rencontre avec le Christ au temps de ma vie passée et ce que ça avait amené. Donc c'est bien cela que nous pouvons partager. Alors ensuite, c'est l'apprentissage indispensable si nous voulons ensemble témoigner et écrire notre témoignage. Les lecteurs auront alors à cœur d'accueillir des messages évangéliques qui ne seront plus des trucs tout prêts, ou alors le père tout à tous a fait un beau commentaire d'homélie, on vous le met dans le journal, mais ils s'en moquent du père tout à tous qui habite Paris ou je sais pas où. Ce qu'ils veulent, c'est que vous, auteur, enfin rédacteur, vous disiez quelque chose de ce Dieu qui vous fait vivre. Ou moi, enfin, si c'est moi qui écris, celui qui écrit, dise quelque chose de ce Dieu qui fait vivre. Alors, pas quelque chose qui est auto-référencé seulement, dirait le pape François. Quelque chose qui est ouvert à l'autre, que l'autre peut vivre. Et ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. N'aie pas peur, fais-lui confiance. Et de la même manière, si vous présentez des actes de générosité, d'accueil de l'étranger, etc., l'autre l'a vécu, vous pouvez aussi le vivre. Donc, entre le journal et ses lecteurs, s'instaure à ce moment-là un partage qui peut devenir communion par le partage de ces tranches de vie, par la parole de Dieu, des signes de vie de Dieu dans la vie des hommes. La rencontre, et le père Monseigneur Rivière l'a dit hier, la rencontre est le premier élément de la relation avec Dieu, les grandes rencontres bibliques. Le premier élément où toutes les rencontres de Jésus se font là. C'est par là que l'homme est évangélisé. Il faut d'abord le rencontrer. Si on ne le rencontre pas, il ne sera jamais évangélisé. Ah oui, mais j'ai envoyé des papiers dans toute la paroisse. Hop, allons donc. Des papiers dans toute la paroisse, c'est parti à la poubelle. Il faut une personne qui parle à une autre personne. Donc une communication de proximité, celle de Jésus avec ses disciples. Pour la presse paroissiale, la route sera donc de présenter des faits, des récits, des informations, la vie quotidienne, sous l'angle des vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, non pas en enseignant ces vertus, mais en les utilisant comme clé de lecture dans la présentation des sujets. Un message compréhensible par tous, mais qui se relie IE et se relie IT à la lumière du Christ, selon des chemins qui s'ouvrent, les nouvelles et la bonne nouvelle, la liberté éditoriale et le lien à l'Église, la vie chrétienne de l'équipe et de la paroisse, et à la rencontre du Christ, puisque c'est l'objectif ou c'est la vision qu'à travers cela il y ait la rencontre du Christ. Car la rencontre de l'autre à travers le journal peut déboucher sur la rencontre avec le Sauveur. Parce que nous communiquons avec les autres, nous ne pouvons pas éviter la question: comment je parle à mon frère? Comment je le reconnais? Comment je le reconnais? Je devrais dire: comment je le reconnais comme celui que Dieu me donne à aimer? Est-ce que je m'efforce dans ce projet de communication d'aimer ceux à qui je m'adresse, d'aimer mes lecteurs potentiels? Je vais vous dire quelque chose qui a changé ma vie. On parle de conversion, et il faut toujours se convertir quand on est au service des autres. Mais en dehors aussi, mais enfin, si on n'y est pas, la conversion va nous mener au service des autres. L'Évangile d'aujourd'hui nous le dit. Dans mon premier métier, pardon, dans une vie de ma jeunesse lointaine, j'avais pour métier choisi, voulu et vécu avec grande joie l'enseignement. J'étais donc prof. Et le Seigneur a commencé par me convertir le jour où il m'a fait saisir, mais comme une évidence que je ne pouvais plus nier, que chaque élève de ma classe était un don de Dieu. J'ajouterai que ça n'a pas fait pour autant des cadeaux. La langue française est heureuse, l'autre est toujours un don de Dieu, mais il n'est pas pour autant un cadeau. Ne l'oublions pas. Donc, nos lecteurs sont toujours des dons de Dieu. Ils nous sont donnés par Dieu pour qu'on communique avec eux. Après, il faut trouver le moyen de communiquer. Mais il faut leur dire des choses de valeur. On ne donne pas à quelqu'un qu'on aime les restes du repas. On ne lui donne pas l'assiette du chien. Eh bien, on ne donne pas aux lecteurs des choses comme ça. Je sais bien que vous ne le faites pas. Mais il y a des journalistes qui le font. Ils n'ont pas travaillé, ils écrivent n'importe quoi, ils ne respectent même pas l'orthographe, etc. Voilà. Donc, aimer celui à qui je m'adresse, pourquoi? Parce que si je fais un journal paroissial, donc chrétien, Dieu me les donne à aimer. Alors, qu'est-ce que je dis de Dieu? Qu'est-ce que je dis d'eux à ce sujet? Dernier point, troisième partie de cette réflexion, quelle est la mission qui apparaît dans tout cela? Dans un certain nombre de paroisses, il a été décidé qu'un journal paroissial était un luxe inutile. Je le regrette. Ailleurs, il a été fait le choix du tout numérique, et même si une feuille imprimée subsiste, la newsletter est devenue l'outil principal. Malgré les arguments que je connais bien, je voudrais en terminant tout de même plaider pour le journal, en montrant comment il est un outil missionnaire, comment il participe à la mission de l'Église locale et comment il est un amplificateur du message évangélique. Le pape François, je vous le disais tout à l'heure, nous invite sans cesse à être une Église qui va vers, une Église en sortie, même si elle se cabosse un peu en roulant sur les mauvais chemins. Nous sommes là au cœur de la mission. Jésus demande à ses disciples de faire des disciples. Allez et faites des disciples. En leur annonçant la bonne nouvelle du royaume. Le plus grand communicant, c'est bien lui, pour nous chrétiens. Il est sorti. C'est pour cela que je suis sorti, dit-il dans l'Évangile. Il n'est pas sorti de sa maison de Capharnaüm où il arrivait qu'il dorme. Il est sorti du sein du Père. Dieu s'est fait homme pour se communiquer. Comment une église qui ne se communique pas peut-elle être fidèle au Christ? C'est aberrant. Il est venu de Dieu. Lui, l'inengendré, il s'est fait homme pour prendre la route des hommes et s'y communiquer, c'est-à-dire y révéler Dieu, le Père qui nous aime, le Père de miséricorde. Donc, l'Église a pour mission de communiquer, c'est sa nature, elle n'existe que pour ça. Et elle n'existe pas pour communiquer uniquement à coup de catéchisme et d'encyclique, elle existe par les vivants. Qui sont les vivants de l'Église? Vous et moi. Donc, si cela ne communique pas, qui le fera? Donc, le journal, la presse paroissiale est le signe d'une église locale vivante, faite de personnes vivantes qui ont à cœur de communiquer la vie. Et je reviens à ce que je disais au début. Dans notre culture, aujourd'hui encore, la presse écrite, le mensuel, le trimestriel, est une expression de cette culture, même si une transformation culturelle se fait. Nous ne pouvons donc pas négliger un moyen de dialoguer avec la culture de nos contemporains, fidèles ou pas, qu'ils soient des fidèles de tous les jours ou des obsèques et des mariages. Dans l'Église a mission de s'adresser aussi à la multitude et donc à ne rien négliger pour entrer en dialogue avec cette multitude. Je regrette, mais la plupart de nos contemporains, quand ils attendent à la sécu, chez le coiffeur ou chez le dentiste, ont besoin de faire quelque chose. Et c'est le journal qui vient le plus vite. Je ne vois pas beaucoup dans ces attentes-là des gens avec des ordinateurs, sauf des gens qui sont en affaires, qui ont besoin de traiter quelque chose, encore que chez le dentiste, ils sont souvent plus préoccupés de calmer leur inquiétude. Donc ils lisent les journaux qui sont là. Si j'ai réussi à persuader le dentiste de mettre le journal paroissial, j'ai gagné quelques lecteurs. Donc, si vous voulez, nous sommes chargés de porter au monde ce que nous avons reçu. Notre mission est une mission spirituelle, ancrée dans le baptême et la confirmation. C'est aller dire, car sans cette dimension spirituelle, les instruments externes de la communion ne serviraient à rien. Nous serions des outils, de simples outils. C'est-à-dire, nous serions comme ces gens qui se rencontrent sur Internet, mais qui ne connaissent ni l'adresse, ni rien de la personne, sinon ce qui est déterminant à leurs yeux, c'est-à-dire l'extérieur, la date de naissance, le poids, la couleur des yeux, etc., mais rien de la personnalité. Donc, pour vivre cette mission, ce que je viens de citer, c'est Jean-Paul II, In novo millennio ineunte, s'il n'y avait pas la dimension spirituelle, nos instruments externes de communication ne serviraient à rien. Ils se convertiraient en moyens sans âme, masques de communion, plus que des moyens d'expression et de croissance. Pour vivre cette mission, il importe donc d'agir en Église, c'est-à-dire en communion entre prêtres, diacres, laïcs, en communauté, c'est-à-dire avec plusieurs membres réunis au nom du Christ pour un temps. Il n'existe pas dans l'Église de CDI. Il n'y a que des CDD, et pour une action reconnue par l'ensemble paroissial. Cette mission s'enracine dans la prière et la fraternité des communicants, en prenant en compte la vie locale, la vie de l'Église, mais aussi les questions profondes que nos contemporains connaissent et dans lesquelles ils se débattent, la vie, la mort, l'argent, la réussite sociale, les enfants. Cette génération qu'évoquait tout à l'heure Madame Svalenta à propos de l'âge moyen qui a à la fois apporté l'âge supérieur, c'est-à-dire les parents âgés, vieillissants, et les enfants, voire les petits-enfants. Cette génération qui est dans le sandwich, là, qui fait la tranche de jambon et qui a au-dessus et au-dessous, se pose beaucoup de questions. Je n'ai pas transmis la foi à mes enfants. Mes petits-enfants ne sont pas baptisés, mes petits-enfants ne sont pas mariés, mes parents sont très exigeants, ils m'ont toujours élevé en demandant des efforts considérables, ils ont 86 ans, je ne sais plus que faire, je suis écrasé par tout ça, etc. Bon. Dois-je mettre ma mère en maison de retraite, elle me le reproche, etc. Ben, j'ai pas dit que le journal paroissial allait répondre à ces questions. Mais vous touchez des gens qui se posent ces questions régulièrement. De la même manière sur la... Comment dire, le désarroi dont on parlait tout à l'heure, qui fait que, mais on a connu des assemblées, il y avait, l'église était pleine, etc. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Un jour, j'étais à Singapour au retour des JMJ de Sydney avec les jeunes du diocèse de Montauban, et grâce aux missions étrangères de Paris qui sont implantées là-bas, on nous avait invités à nous arrêter 3 jours en escale en revenant des JMJ de Sydney, c'était en 2008. Et donc, on découvre qu'à Singapour, il y a une foule immense qui vient de catholiques, qui vient à la messe dans la paroisse en été des missions étrangères de Paris, messe 6h30, église pleine, c'est-à-dire bien plus de monde qu'il y en a là, et le soir pareil, et plus encore. Et j'étais presque un des plus vieux. Donc je dis aux jeunes après, tu pourras dire à ta grand-mère, je dis à une, que... À Fouilly en Quercy, il n'y a plus grand monde à la messe, il n'y en a même plus, mais alors à Singapour, hein, ça y va. Et il me dit, oui, mais elle me répondra que c'est pas sa messe. Voilà. voilà. Alors comment donner dans un journal paroissial, à la fois constater qu'effectivement à Fouillon-Quercy il ne peut plus y avoir de messe, parce que comme a dit la dame qui me le reproche, eh oui, c'est que ma belle-sœur elle s'est cassée le col du fémur, alors elle ne peut plus venir, et son mari, ben il n'est pas croyant, alors il ne vient pas, et mon mari l'hiver il ne peut pas aller à l'église, c'est pas assez chauffé. Alors et les voisins c'est pareil. Ah, vous avez raison monseigneur, les voisins c'est pareil. Et alors qu'est-ce que vous voulez, que je trouve un prêtre pour dire une messe s'il n'y a personne? On me dit il a 18 clochers. Ben, j'ai dit mais combien d'habitants? Les clochers, il y a des cloches, elles sonnent, c'est tout, et puis après voilà. Où sont les vivants? L'église est vivante pour les vivants. Laissez les morts enterrer les morts, dit Jésus. Alors bon, donc si vous voulez, en prenant en compte tout cela, les rédacteurs chercheront à honorer le beau, le vrai, le bon. On a parlé de la beauté tout à l'heure. Elle sauvera le monde, paraît-il. Pas moi qui l'ai dit, vous le savez, mais c'est important. Des clichés de qualité. On évitera d'être moralisateur en se souvenant que Jésus n'est pas un moraliste, mais il est le sauveur. L'espérance, qui n'est pas la naïveté, sera toujours un moteur de la rédaction. L'espérance, il n'est pas de dire « Oh, c'est bien, c'est beau, c'est la méthode Coué. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Non, c'est pas ça. C'est la foi, la certitude que nous allons vers un monde que Dieu aime. Et nous sommes dans un monde que Dieu aime. La diffusion aura toujours intérêt à être missionnaire, ce qui veut dire que le journal est porté par des bénévoles qui sont heureux d'aller à la rencontre des personnes et qui sont un visage de l'Église. Ces bénévoles seront honorés, par exemple au moment des vœux paroissiaux, ils seront peut-être des relais pour connaître les réactions des lecteurs. Il y a aussi profit à mettre le journal dans des commerces, chez les marchands de journaux. N'oublions pas qu'il s'agit d'aller vers les autres, parce que au nom du Christ, nous avons à communiquer et à échanger. Et puis, on aura des rédacteurs de l'équipe une connaissance d'ensemble de la paroisse. On les présentera, on leur dira, on dira aux gens ce qu'ils ont à faire, et puis peut-être on aura des personnes qui, de temps en temps, ponctuellement, pourront participer parce qu'elles sont spécialistes de tel ou tel domaine. Et d'autre part, on fera peut-être appel à des spécialistes beaucoup plus lointains qui accepteront de donner leur participation. En conclusion, mes convictions, c'est qu'une culture est encore aujourd'hui transmise par cette presse de proximité. Et les journaux paroissiaux entrent bien dans ce domaine. Mais ils connaissent, ou se doivent de connaître, une nouveauté pastorale. Il ne s'appelle plus le petit journal ou le bon sacristain. C'est fini. Que monsieur le curé tirait avec patience sur son stencil ou composait avec ses réserves de figurines découpées, et vous rappelez les années 80, et photocopiait difficilement le soir avec une lumière blafarde. C'est fini. Le journal demande une approche quasi professionnelle. Merci Bayard, je l'ai dit en introduction, je le dis en conclusion, mais Bayard n'est pas le seul salut du monde, c'est que le Christ qui sauve. Et des équipes de rédacteurs qui portent un projet d'évangélisation. Ce projet demande à être explicité, partagé, rédigé, vérifié régulièrement. Il n'est la propriété de personne. Madame Michu, qui a fondé le journal, nous ennuie. Madame Michu, elle a fondé le journal, maintenant elle fait place à d'autres. Mais de mon temps, de votre temps, Madame Michu, vous auriez été décédée parce qu'à 80 ans, c'était l'âge limite de la vie. Je vais vous raconter une anecdote pour la devise « Je maintiendrai ». L'année dernière, en visite pastorale, un soir du mois de février, les gens étaient un peu âgés. Le curé m'avait dit, lui aussi âgé, pardonnez-moi d'avoir été méchant en disant 80 ans, c'est pas bien, il était bon. Et il me dit, on fait une veillée de prière avant le repas parce que sinon personne ne viendra. Donc on fait une veillée de prière avant le repas, et il y avait une quarantaine de personnes, c'était déjà bien, mais je vois au fond de l'église, au pied du dernier pilier, un couple d'un âge certain. Et je me dis, c'est quand même pas possible, il y a une marge énorme qui les arrête entre les gens et eux. Et alors, je vais leur dire qu'ils seraient bienvenus, qu'ils s'avancent, parce qu'on n'est pas nombreux, l'église n'est pas très bien chauffée. Et je me suis reçu une réponse, je vous assure que... Mais je comprendrai après que je n'étais que le troisième à leur faire cette invitation. C'est pour ça que le monsieur m'a dit, sachez que c'est ici ma place, parce que c'était la place de mon père et de mon grand-père. Thank you. et j'ai voulu, l'Esprit Saint parfois agit même sur les évêques, j'ai voulu lui dire, et au cimetière vous ferez pareil alors. Mais je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Donc, la communication du journal demande, comme ailleurs, un esprit de coopération entre les uns et les autres. On va chercher, on éclaire dans le dialogue ce qu'on veut dire. Internet est utilisé comme un outil indispensable, renseignements, photos, sites diocésains, etc. On joue avec tous ces moyens. Le journal donc demande des talents multiples à mettre en commun. La symphonie, on harmonise. Enfin, par ces échanges et par la nécessité de la communion, la presse paroissiale fait avancer dans la paix et dans l'unité. Si un ensemble paroissial regroupe ses forces autour d'un projet de communication écrite et le mène à bien durablement, c'est à mon avis, et je parle par expérience, le signe d'une bonne santé spirituelle de la communauté paroissiale. C'est un signe parmi d'autres, là non plus ce n'est pas le seul, mais il est certain qu'il fait l'unité, pas l'unanimité, l'unité, et il est un outil de communion. Et pour un évêque, de voir dans le diocèse, je pense qu'il y a une vingtaine de journaux paroissiaux. Non ? 12, pardon. Heureusement que je me suis fait corriger. 12 journaux paroissiaux pour 260 000 habitants, c'est pas trop mal. Je ne me vante pas, mais ça pourrait être mieux. Mais on sait que là où il y a des problèmes, le journal se casse la figure. Des problèmes entre le prêtre et des personnes, entre des personnes, là où il y a des clans, le journal se casse la figure. Alors, c'est un des signes de l'unité paroissiale. C'est ma conclusion sur ceux qui rechercheraient une certaine efficacité à l'intérieur. À l'extérieur, je crois que j'ai essayé de le démontrer. Je l'ai fait plus que je n'avais de temps. Je vous en demande pardon. Il y a peut-être quelques minutes pour les questions.